Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça.
Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Bonjour à tous, bienvenue sur Delta Sport. Il est midi pile poil sur Delta FM. On est le vendredi 5 juin 2026 et c'est parti pour la dernière émission de l'année. Donc aujourd'hui, malheureusement, Clément ne sera pas avec nous, mais on a un invité spécial, c'est Yanis. Yanis qui revient.
Salut tout le monde. Bonjour, salut Yanis. À tous. Ça fait plaisir de revenir, vraiment.
Ça va?
Ça m'avait manqué, limite.
Le grand retour.
Exactement.
Et il y a toujours, évidemment, Ancelin.
Salut.
Ça va, Ancelin?
Très bien.
Fin d'année, fin de seconde, là. Et Clément aussi.
Salut.
Ça va?
Ça va.
Et Sacha, évidemment, qui sera toujours là.
Salut.
Vous serez là l'année prochaine? Vous allez rester?
Oui.
Continuez. Ouais.
Continuez.
Ouais. Continuez à fond.
Donc, programme du jour, on va commencer avec le cyclisme avec Clément, puis après, Ancelin va continuer aussi sur le cyclisme. Après, Sacha va nous faire la F1, le Grand Prix du Canada. Je terminerai sur la Ligue des Champions, et puis après, ça sera les adieux. Hein. Donc, c'est parti pour le cyclisme avec Clément.
Donc je vais revenir sur les dernières étapes du Giro d'Italie Homme, donc de la 19e à la dernière étape, donc qui s'est terminée le 31 mai. Pour l'étape 19, c'est Stepkus de la Visma Lisabike qui est le vainqueur de cette étape du Giro, grâce à son échappée. L'Américain est donc le 116e coureur de l'histoire à remporter une étape des trois grands tours, donc Tour de France, Vuelta et Giro. Donc Jonas Vingegaard reste leader alors que Timen Aresman n'est plus dans le podium. Pour l'étape 20, c'est Jonas Vingegaard qui a scellé sa victoire au classement général avec une cinquième victoire d'étape sur ce Giro. Le Danois est parti à 10 km de l'arrivée pour un nouveau raid solitaire alors que Felix Gaul termine une nouvelle fois au deuxième rang. Donc lors de la 21e étape et la dernière, l'arrivée s'est faite à Rome avec un parcours plutôt plat. Ça a profité à l'Italien Jonathan Milan qui remporte un Giro décevant car sa seule victoire était ce jour-là. Paul Magnier n'a pas été en capacité de sprinter pour la victoire, mais il finit quand même 11e. Donc, de son côté, Jonas Vingegaard a passé la ligne sans encombre et complète la trilogie des grands tours, après avoir gagné le Tour de France et la Vuelta. Donc niveau classement, pour le classement général, c'est Jonas Vingegaard qui l'emporte en 23h22. Ensuite, il y a Felix Gaul et Jay Hindley qui complètent le podium. Ensuite, pour le classement par points, c'est Paul Magnier qui l'emporte avec 200 points, suivi de Jonathan Milan et Thomas Silva. Pour le classement montagne, c'est l'Italien Giulio Ciccone qui l'emporte avec 277 points, suivi de très près par Jonas Vingegaard avec 266 points. Et enfin, Ener Rubio complète le podium. Pour le classement des jeunes, c'est Alfonso Eulalio qui l'emporte en 83h32. Donc c'est environ 10 minutes de plus par rapport à Vingegaard. Et ensuite, David Pegizzalio et Mathis Rondel complètent le podium. Ensuite, pour le classement par équipe, c'est l'équipe Team Visma Lisabike qui l'emporte, avec notamment Jonas Vingegaard. Ensuite, c'est Netcompany Ineos et Red Bull Bora Hansgrohe qui complètent le podium. Pour le classement des sprints intermédiaires, c'est Manuel Tarozzi qui l'emporte. Pour le classement du Red Bull Kilomètre, c'est Igor Arrieta qui l'emporte. Et enfin, pour le classement des échappés, c'est Diego Sevilla qui l'emporte. Ensuite, maintenant, je vais revenir sur le Giro d'Italie Femmes. Donc, de la première à la sixième étape. Donc, sachant que le Tour Femme, lui, se compose de 9 étapes seulement.
Mais il y en a un peu moins, c'est ça.
Ouais. Comme le Tour de France aussi, il y a moins d'étapes pour les femmes. Donc, pour la première étape, c'est Lorena Wiebes qui s'impose au sprint et devient la première maillot rose. Elisa Balsamo finit deuxième. Pour l'étape 2, c'est l'Italienne Elisa Balsamo qui l'emporte au sprint. Pour l'étape 3, à nouveau Elisa Balsamo qui l'emporte au sprint. Bien qu'ayant été mis en difficulté à 21 km de l'arrivée, elle accentue son avance au classement général avec le maillot rose. Pour l'étape 4, la Néerlandaise Anna van der Breggen remporte le contre-la-montre en 31 minutes et 38 secondes, mais c'est surtout qu'elle avait une minute d'avance par rapport à Marlene Reusser et Demi Vollering. Pour l'étape 5, c'est Demi Vollering qui l'emporte, donc c'est son premier succès sur le Giro, sur ce Giro, et la Néerlandaise l'a emporté au sprint devant Anna van der Breggen et Antonia Niedermayer. Et enfin, pour l'étape 6, donc c'est Elisa Balsamo qui l'emporte encore au sprint. Ça fait quand même 4 succès sur 6 pour l'Italienne.
Voilà. Super, merci Clément. Et donc, on enchaîne avec Ancelin.
Donc moi, je vais commencer donc avec la boucle de la Mayenne. Donc c'était la 51e édition. Donc ça a commencé donc le mercredi 28 mai à Laval, donc avec un prologue de 5,4 km. Donc c'est court, mais c'est explosif. Donc un prologue, c'est une très courte course de contre-la-montre individuelle. Donc ça permet de faire une course par étape. Donc ça, pour faire un...
pour lancer les...
Ouais, pour un classement général.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et c'est donc le Danois Julius Johnsen qui a frappé en remportant cette première manche. Donc la première étape, donc c'est lui qui signe un doublé, donc en s'imposant une nouvelle fois. La deuxième étape, c'est le samedi 30, donc c'était l'étape Rennes entre Aron et Pré en Paille-Saint-Samson pour un total de 215 km. Et c'est le Français Benoît Cosnefroy qui s'impose, qui a dominé ses adversaires et s'est emparé du maillot de leader du classement général. Et enfin, la troisième étape, donc, c'était le dimanche 31 mai et c'était entre Cossé-le-Vivien et Laval pour un total de 147 km. Et c'est le Néerlandais Ovalcoy qui a remporté le sprint final dans un groupe réduit. Et donc du côté du classement général final, donc c'est Benoît Cosnefroy qui s'impose grâce à sa régularité et sa victoire sur l'étape Rennes. Il devance deux autres Français, Thibaut Gruel de la Groupama FTJ United à seulement 7 secondes et Noah Isidore de la Decathlon CMA CGM à 12 secondes. Donc c'est un podium très serré, mais aussi un podium 100% français.
Ok, super.
Donc après, donc, il y avait aussi l'Alpe Isère Tour. Donc ça se disputait donc, du 27 au 31 mai avec 5 étapes pour la 35e édition. Donc la première étape, le 27 mai, c'est le Belge Mathis van der Kerkhove qui s'impose. Deuxième étape, c'est victoire de Wetzel Tom Lambert. La troisième journée, donc, c'est victoire de Liam van Bilen. La quatrième étape, c'est victoire de Elliot Rowe. Et enfin la dernière étape, c'est Peter Oxenberg qui s'impose. Et enfin, donc, le Bretagne Ladies Tour, donc, ça se disputait du 29 au 31 mai, donc 3 jours de course avec un peloton international pour la 11e édition. Donc la première étape était le 29 mai, et c'est la Belge, Sandrine Tass qui s'impose devant la Danoise Amalie Diderkissen. La deuxième étape, c'était un contre-la-montre, donc à Plodermien, remporté par Jasmine Lietchi. Et enfin, la dernière étape, c'était entre Cossé-le-Vivien et Laval, avec un final rapide et une victoire de Sandrine Tass au terme d'un sprint. Et côté général, c'est la Suissesse Jasmine Lietchi qui remporte le Bretagne Ladies Tour 2026.
Super, merci Ancelin. Et donc, c'est tout pour toi ce matin, pour cette dernière émission. Eh bien, merci, on passe à la F1 avec Sacha.
Et aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Prix du Canada qui s'est passé sur le circuit de Gilles Villeneuve. Et il y a une particularité sur ce circuit. Je ne sais pas si vous en souvenez, sur la première émission que j'ai faite sur la Formule 1, c'était le Grand Prix d'Australie.
Oui.
Ça entourait un lac, le circuit. Et bien là, c'est le circuit qui est entouré d'eau. Okay. Il est en plein milieu d'un énorme fleuve. Et en fait, du coup, il est complètement entouré d'eau. Pour y accéder, c'est par un pont.
Ok.
D'accord.
Voilà. Donc, tous les mécanos, tout le monde.
Ouais.
Ah ouais. Ok, incroyable.
Sacrée logistique quand même.
Ouais. Et donc, ça s'est déroulé le week-end du 24 mai, il y a 2 semaines. La course a fait 68 tours, donc c'est un peu plus long que d'habitude. D'habitude, c'est 57, mais là, quand même, ça fait long. Il y a une course sprint samedi. Il y a eu, dès le début, des tensions entre l'écurie Mercedes. Ils sont bagarrés tout le week-end. On va le voir plus tard dans la course. Le classement, une course sprint classique. Je ne sais pas si tu connais Yannis.
Si, ouais, course, si, je connais. L'année dernière, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de.
C'est un expert, lui. Il connaît tous les sports.
Ouais, non, oui, si, je connais un peu. C'est vrai que je regarde de temps en temps la F1. Là, un peu plus, parce que c'est vrai que cette année, il y a de la concurrence. Mm. Mais c'est vrai que l'équipe Mercedes, en ce moment, c'est vrai que les tensions et tout entre les deux pilotes qui veulent être tous les deux champions du monde, bah, à la fin, c'est qu'il n'y a qu'un seul trophée, quoi. Donc, c'est compliqué.
C'est ça. Et donc, le classement pour la course sprint, ça a fait Russell, Norris, puis Antonelli. On passe tout de suite, du coup, au résumé du Grand Prix. La vraie course, cette fois, on a eu les qualifs plutôt classiques. Pas de crash, pas d'accident, heureusement, rien de spécial. Le classement, ça a fait Russell, encore une fois, en pole position, puis Antonelli et Norris, en troisième position. Maintenant, la course, il y a beaucoup de choses à dire. Dès le départ, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un problème. Mm. Les feux n'étaient même pas éteints. Il y a quelques voitures qui ont avancé. Donc, ils ont fait un troisième tour de formation pour se replacer. Heureusement, ils ont fait un deuxième départ. Ça s'est bien passé. Donc, tout le début, on a eu un duel dans l'écurie Mercedes. Ils se battaient, franchement, limite comme des enfants. Parce qu'à un moment, on a Antonelli qui dit « Oui, mais... il m'est passé devant, c'est à moi de revenir devant. » Enfin, même Toto Wolff, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le chef de Mercedes, qui était obligé d'intervenir pour dire...
Calmez-vous.
De se calmer et garder un peu de respect quand même. On a eu aussi des problèmes de pneus, pour notamment Williams, Cadillac aussi. Ils ont mis des pneus Inter, qui sont des pneus faits pour la pluie normalement, pour les temps mouillés.
Bah parce que c'est vrai qu'il commençait à pleuvoir et du coup ils se sont dit et au final non, ça s'est pas passé comme prévu.
Il a pas plu, donc ils ont dû changer les pneus assez rapidement. Au 13e tour, on a eu un gros contact quand même entre Albon et Piastri. Puis au 30e tour, improbable, on a eu l'abandon de Russell puisqu'il y a une casse moteur. Donc, il a fait un tout droit dans l'herbe et il y a une casse moteur, il a dû abandonner. Il était très dégoûté. On a eu aussi un duel entre Hadjar et Leclerc, un pilote de Ferrari et de Red Bull. On a eu des gros duels. Au 40e tour, on a eu la panne moteur aussi de Norris, l'ancien champion du monde. Donc il y a aussi un abandon. On a eu pas mal d'abandons, vous allez voir ce week-end. Ensuite, on a eu Pérez en rentrant au stand qui a cassé sa direction. Les pneus.
Ah oui,
il a dû pousser la voiture.
Ouais,
pousser
la main.
Donc, c'était très compliqué. Un abandon aussi. Et au 50. Les 50. Waouh. Le 53e tour, on a eu Leclerc qui a dérapé. Et puis, on a eu des duels pour la fin entre Verstappen et Hamilton. Il y a aussi un truc à dire, c'est que, on a beaucoup parlé sur les réseaux comme Reddit, la caméra a été très mal gérée. C'est-à-dire que là, ce que je vous raconte, par exemple, le dérapage de Leclerc, qui a dérapé dans un virage, on ne l'a pas du tout vu, on l'a vu en replay. La caméra, elle était tous mal gérée, on ne voyait pas les bonnes actions. Pareil pour Pérez qui casse sa direction, on ne l'a pas vu, on l'a vu en replay. Du coup, c'est un peu dommage. Les fans de F1 étaient un peu dégoûtés. Et donc, je vous l'ai dit, il y a eu pas mal d'abandons. Il y a eu 6 abandons quand même pendant cette course.
C'est énorme quand même. Ouais. Pour une course de F1, c'est énorme.
C'est quand même pas mal. Surtout que c'est de la panne moteur, de la casse. Voilà. Pour le classement, donc ça fait Antonelli qui garde toujours premier. Et au classement, Antonelli a quand même 100 points quasiment d'avance sur le deuxième. C'est quand même assez conséquent. Ensuite, on a Hamilton en deuxième position, puis Verstappen. Verstappen qui revient ces derniers temps. Alors qu'on voulait, on le voyait au début de la saison, c'était pas ça. Il faisait des mauvais départs, le moteur ça allait pas. Là, il revient. C'est plutôt pas mal. Leclerc en quatrième position, puis Hadjar en premier français. On n'en avait pas vu encore en cinquième position en français. C'est là qu'il arrive. Pour le classement constructeur, on a Mercedes toujours qui domine, bien sûr. Ensuite Ferrari, McLaren et Alpine qui gardent sa place comme écurie française en cinquième position.
Eh bien, super, merci beaucoup Sacha. On passe donc à la Ligue des Champions. Eh bien, c'est comme une impression de déjà-vu. Hein ?
Effectivement,
donc,
c'est vrai.
Donc, finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, PSG-Arsenal. Un partout, victoire retour au but du PSG, 4-3. Donc, le PSG fait le back-to-back. Deuxième Ligue des Champions en 2 ans. Voilà, historique.
Aïe, aïe, aïe. C'est ouf.
On va dire, Yannis.
C'est ouf. Ah, franchement, c'est ouf. C'est vrai que...
Parce qu'on a un grand supporter du PSG aussi. On est avec Clément Marseillais et Yannis, méga parisien.
Je vous avoue que l'année dernière, c'était sympa. On se titillait et tout. Je pense que c'est même pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là aujourd'hui. Non, on l'embrasse très fort d'ailleurs. Non, franchement, très belle finale. Très, très belle finale. J'en ai entendu beaucoup des gens dire que ce n'était pas une si belle finale que ça. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de buts. Enfin... Non,
alors,
une
oui.
finale de Ligue des Champions, c'est pas, on va pas genre à 1-4-3, ça peut être une très bonne finale comme une mauvaise finale, tu vois. Alors que là, on avait deux équipes qui savaient ce qu'ils faisaient. D'un côté, t'avais Arsenal qui défendait très bien, de l'autre, t'avais le PSG qui essayait d'aller chercher des espaces. Et franchement, bah, la meilleure équipe l'a emporté.
Et oui, donc c'est la meilleure équipe, effectivement, qui remporte cette compétition, puisque le PSG écrase tout simplement le 11 de la saison avec Dembélé, Kvara, Vitinha, Marquinhos et Nuno qui sont dans le 11. Par contre, c'est un peu moins le cas en termes de titres parce que le meilleur joueur, c'est évidemment aujourd'hui PSG, c'est Kvara. Le meilleur jeune, c'est Arda Güler, une petite surprise. Le meilleur buteur, c'est Mbappé, étonnamment, alors que le Real est sorti en quart de finale. Et donc, le meilleur passeur, c'est égalité entre Hakimi, Kvara et Olise, qui sont à 6 tous les 4, tous les 3.
Ah, okay. Voilà. Ouais, okay.
Donc, deuxième Ligue des Champions du PSG. Je me rappelle que l'an dernier, quand le PSG avait gagné 5-0 face à Inter, on était tous choqués par la victoire. Et on se demandait justement, après avoir atteint le but ultime, qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, bah, ils ont réussi à avoir la deuxième Ligue des Champions.
Bah, on a eu Dembélé Ballon d'Or.
Ça, aussi, ouais.
C'est... aussi, c'est vrai.
Ça, entre-temps, c'est vrai.
C'était magnifique. Et franchement, j'adorais qu'il l'ait de nouveau parce que franchement, il a fait une saison stratosphérique.
Ah oui, ça c'est incroyable ce qu'il a fait.
Ah bah oui.
Donc PSG, 2 Ligue des Champions.
Franchement, on n'y croyait pas. Moi, ouais. Qui regardais le match, quand on se prend le but à la 6ème minute, bah,
j'ai eu très très peur. Hein.
Il fait froid.
Je me suis dit, non, ah. Ah, non.
J'ai en plus, le but qu'il met, il est hyper après, précis. Quoi.
Ah bah, ouais. C'est une frappe imparable. Aucun gardien peut l'avoir. Ouais. Parce que Safonov, c'est quand même l'un des meilleurs gardiens de cette saison, même si ce n'est même pas le meilleur gardien de la saison, pour moi. Après... Est-ce que je dis ça parce que je suis supporter du PSG? Parce que c'est vrai que l'année dernière, on ne le connaissait pas, Safonov. Il était en supplément de Donnarumma, mais il a joué un petit peu.
Et en plus, voilà. On a eu, il s'est blessé à la tête.
Ouais,
et ouais, il a pris un coup.
On a eu peur. On a eu peur.
Quand on a vu l'image de Lucas Chevalier qui a commencé à s'échauffer, oula, la sueur monte.
Chevalier est un bon gardien, mais c'est vrai que pour une finale de Ligue des Champions, il faut un excellent gardien.
J'ai même vu des gens sur les réseaux qui ont dit je préfère un Safonov blessé qu'un Lucas Chevalier en pleine forme.
C'est vrai qu'il a une
donc
saison très très compliquée.
C'est dommage.
Ah ouais, non, effectivement.
D'ailleurs, je crois qu'il a même pas été sélectionné en équipe de France, non?
Non, il n'est pas sélectionné, c'est Robin Risser.
C'est ça, oui.
Mais Brice s'en va.
Ouais, donc en parlant de foot, Coupe du Monde cet été là qui commence dans une semaine là.
Bah oui, ça y est, déjà.
Deux jours.
Non, la semaine prochaine.
Ah ouais.
Jeudi prochain.
Jeudi prochain.
Ouais. Attends pour moi.
Ah. C'est ça.
On a déjà eu un match France.
Ouais. Hier, France Côte d'Ivoire.
Ouais.
Vous avez regardé le match?
Non, je vivais le résultat.
Et ben franchement, moi non plus parce que j'ai préféré regarder le vlog de Mohamed Denis sur sur la finale.
Il a fait un vlog. Il a fait un tatouage aussi.
Il a fait le tatouage.
Il l'a fait du coup.
Il l'a fait. Il l'a fait.
Il avait promis que si le PSG gagnait.
Faire le back-to-back, c'est vraiment un truc historique. Nous, au pénalty, je pense que c'est les fans d'Arsenal qui avaient peur. Parce que Safonov, au pénalty, ce gars, je ne sais pas si vous avez vu les autres finales, que ce soit le trophée des champions, que ce soit la Coupe intercontinentale, il a tout arrêté. Donc je pense que les joueurs d'Arsenal, ils étaient un peu... Donc ouais, non, franchement, c'est super. Franchement, en tant que supporter du PSG, bah, c'est les émotions, c'était trop bien. Après, malheureusement, dans le sport... À Paris, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, les émeutes, les casseurs et tout. Je disais, mais ces personnes-là dans le sport n'ont pas leur place. Ça a détruit un club.
Oui, après, c'est relativisé, c'est une très petite partie des gens.
Oui, bien sûr, il faut relativiser. Mais...
Parce que quand on va sur les réseaux, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais en vrai, c'est une minorité.
C'est aussi les médias qui montrent ça. Parce
les médias.
Aux médias, on va pas montrer des personnes qui s'amusent et tout.
Non. Surtout certains médias, voilà.
Oui.
C'est vrai que certains médias ils vont te dire il y a eu des émeutes, ils ont cassé tout et tout. Alors que c'est vrai que, comme dit Mamadou, c'est une minorité en fait. Il y a plein de gens qui se sont célébrés dans la joie, dans la bonne humeur et tout. Donc, oui. Voilà.
De toute façon, ils capitalisent sur le négatif, c'est ce qui fait.
Exactement.
C'est ce qui fait parler.
Carrément.
Donc voilà, fin de la Ligue des Champions. Après.
Bah, l'année prochaine, on fait le. Refait le back-to-back.
Je pense que l'année prochaine, on aura une finale à Real Madrid-PSG, j'ai l'impression.
Ah, ouais.
Je sais pas pourquoi.
Ah, ok.
Ah, ouais. Bah, après deux saisons blanches, ça.
Parce qu'en plus, là, le Real, en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a les élections présidentielles.
Du
Real,
ouais.
Le Real Madrid, c'est un club un peu à part, dans le sens où c'est l'un des seuls grands clubs qui appartient encore à ses supporters. Donc, c'est pas juste un milliardaire qui l'achète et puis qui dit c'est à moi. Mmh. C'est vraiment les supporters et les socios qui votent pour leur président et qui participent.
Cool, ils font des élections, ouais.
Ouais, ils font des élections. C'est ultra démocratique.
Ouais.
Donc, là, actuellement, c'est entre Pérez, l'actuel président qu'il a depuis genre 20 ans, qui est voilà, le président littéralement le plus.
Apprécié du Real.
Le petit trait, en tout cas.
Ouais.
Et puis, t'as Riquelme, donc c'est un jeune qui veut un peu changer les choses avec beaucoup d'idées novatrices. Et donc, hier. Il annonce à la télé espagnole,
oui.
Donc ça c'est méga rare, hein. Il annonce qu'il va signer Erling Haaland. En tout cas, il le laisse très sous-entendre.
Oui,
sauf que juste après, t'as Haaland, sa famille et Manchester City qui font un communiqué et qui disent que c'est totalement faux,
tout pareil,
qu'il est en train de mentir sur son dos et qu'il va être poursuivi en justice.
Tout pareil.
Donc déjà là, perd en crise. Et pareil, Florentino Pérez qui fait une vidéo, il annonce que José Mourinho va venir. Sauf que sur la vidéo, on voit José Mourinho avec le maillot du Real. Donc le fait que Mourinho vienne, ça c'est relativement vrai en tout cas, parce que Benfica fait un communiqué.
C'est vrai que ça va. Ouais,
Par contre, le fait qu'il ait porté un maillot du Real, ça c'était faux, c'était une vidéo faite avec de l'IA. Voilà.
C'est comme j'ai entendu que Michael Olise aussi devrait rejoindre le Real Madrid.
Ouais, après ça, non, c'est pas officiel.
Il est encore sous contrat avec le Bayern, il va rester parce que c'est vrai que lui aussi il a fait une saison.
Mais je pense qu'il viendra pas. Je pense que c'est une mauvaise idée de.
En fait, moi, je pense que si, du coup, comme disait le nouveau président qui veut être élu, si tu mets Mbappé, Haaland, Olise, ça va faire comme.
Non, lui, il veut pas Olise, lui, il veut Haaland.
Ouais, mais ça va faire comme, tu sais, comme le PSG dans les années 2020 où t'avais du Neymar, du Mbappé, du Messi. Ça va faire plein de joueurs qui vont jouer, genre, tout seul, perso, et qui vont pas privilégier le collectif, tu vois.
Eh oui. Donc, on se retrouvera à la rentrée. Hein. En tout cas, vous serez encore là, j'espère.
Oui.
Soyez là, les gars. Franchement, c'est une superbe expérience.
Pour parler de la Coupe du Monde.
Exactement, il y a la Coupe du Monde. Vous avez un pronostic, d'ailleurs, enfin, un petit vainqueur.
Moi, je pense que la France, elle ira en demi-finale, mais après la finale, je sais pas.
D'accord.
Je pense.
Clément.
France, je pense qu'il y a. Ce serait bien qu'elle gagne, hein, la France. Hein.
Ouais, c'est vrai que sur le papier, on a l'un des meilleurs effectifs.
Ouais.
Après, moi, honnêtement, le Portugal. Pour moi, va être
aussi, hein.
Une très très grosse nation. L'Espagne aussi.
Le seul point faible du Portugal, je pense que c'est leur coach qui vraiment qui a aucun caractère. il a aucun caractère, franchement. Donc ça peut être problématique.
Et toi, du coup, Ansem?
On espère la France, mais ouais, l'Espagne.
Attention à l'Espagne.
Mais attention à l'Espagne, parce que c'est vrai qu'en vrai, tu t'enlèves les équipes d'Europe, la Coupe du Monde,
L'Argentine, quand même. Hein.
L'Argentine, oui.
Franchement,
oui,
l'Argentine.
Ils n'ont pas un meilleur. Enfin, tu vois, l'effectif qu'ils ont sorti.
Ils ont encore Messi. Hein.
Ouais, mais attention. Messi, il est vieux.
Ouais, mais attention à Messi quand même.
Pour moi, Messi, oui, attention à Messi, mais c'est vrai que. Non, ça va être une belle Coupe du Monde. Une Coupe du Monde à 48 pays, ça va être intéressant, je trouve.
Et bon, bah, voilà, je crois que c'est la fin. Donc. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, les auditeurs qui vous avez écouté durant cette année, ces trois dernières années. Merci beaucoup Justine et toute la radio Delta FM pour son aide depuis le tout premier jour pour vraiment émission super. Vraiment, c'était trop bien. Merci à toi Yanis, à Marie-Lou, Marine, Lola.
On se retrouvera l'année prochaine.
Sacha, Clément,
et merci à toi aussi. Hein,
Mamadou, merci à toi.
Ah, merci beaucoup, franchement.
Le petit fan du Real Madrid.
Et oui, donc, franchement, ces trois années, super bien.
Quand on a commencé ensemble, les petites émissions, les petits ratés, les trucs comme ça et tout, ça fait toujours des bons souvenirs.
Hier, j'ai réécouté un peu d'anciennes émissions, je me suis dit waouh, mais.
Ouais, moi, j'ai pleuré parce que c'est tellement nostalgique, c'est
changé,
tellement
quoi.
Des bons moments, c'est.
On se réinvitera peut-être.
Ouais, je reviendrai.
J'aime bien le peut-être.
Si le Real gagne, je reviendrai.
Fais gaffe.
Bon, franchement, merci. Hein. Donc, pour ma part, c'est la fin. Mais ne vous inquiétez pas, Delta Sport revient dès la rentrée avec une toute nouvelle équipe, normalement. À la prochaine.
Salut.
Salut.